Europe 1, il est 8h18, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Augustin de Romanet, président directeur général d'Aéroports de Paris.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Augustin de Romanet.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Une échéance tout d'abord et un signal aussi, la réouverture de l'aéroport Paris-Orly, ce sera le 26 juin. Vous savez quelle sera l'ampleur du trafic de la reprise à cette date-là ?
Le fait que nous ayons décidé de rouvrir Orly un petit peu avant ce qui aurait été raisonnable financièrement a eu l'effet positif escompté, c'est-à-dire qu'un certain nombre de compagnies, notamment de compagnies basées hors de France, ont vu ce signal comme une invitation à recréer des programmes de vol. Donc nous avons un certain nombre de compagnies étrangères qui envisageaient de revenir simplement à mi-juillet à Orly et qui ont décidé d'avoir des programmes de vol dès le 26 juin. Donc nous accompagnons une reprise du transport aérien qui est indispensable.
Reprise, réouverture donc, Augustin de Romanet, avec les conditions sanitaires bien sûr, port du masque obligatoire et caméra thermique, il était temps, la plupart des aéroports internationaux en disposent.
Oui, ce que nous avons découvert, c'est que par exemple, dans ce domaine, les pays africains étaient beaucoup plus avancés que nous. Ils ont l'habitude de gérer des fièvres, des épidémies, etc. En fait, la caméra thermique, c'est un grand mot pour quelque chose qui est extrêmement simple. Il s'agit simplement de passer devant un système qui détecte automatiquement, sans aucune intrusion, le fait que vous soyez positif ou pas. Et l'expérience que nous vous avons menée à Charles de Gaulle depuis quelques jours est très intéressante. Nous avons vu 10 000 personnes passer devant nos caméras. Le petit logo rouge s'est affiché 95 fois.
Ah.
Mais nous vérifions avec un pistolet personnalisé. Nous avons détecté une seule personne qui avait de la fièvre confirmée. Et c'était en réalité, après examen médical, un coup de soleil.
Bon, tout va donc bien alors. Pour cette personne, est-ce qu'il faut s'attendre, j'ai bien compris, quelle était évidemment l'utilité de ces caméras thermiques, à des délais plus longs pour monter dans l'avion ?
Des délais un petit peu plus longs, mais pas nécessairement très étendus. Ce qui est clair, c'est que au moment où vous serez dans la salle d'embarquement, il faudra respecter les distanciations physiques, et donc il y aura peut-être nécessairement un peu plus de délais. Cela dit, à contrario, on peut considérer que l'attention portée au parcours du passager va s'accroître dans des telles conditions, et le souci de tous les acteurs de la chaîne d'éviter les attroupements fera que peut-être le parcours sera tout aussi fluide. J'ai notamment bon espoir qu'à la police aux frontières, des longues files d'attente comme celles que nous avions auparavant ne soient même plus acceptables par le système policier lui-même.
C'est important ça, évidemment, Augustin de Romanet. Il y a beaucoup d'auditeurs ce matin qui vous écoutent d'outre-mer et d'ailleurs peut-être aussi du Maghreb. Les premiers vols depuis l'aéroport d'Orly devraient être pour les départements de l'outre-mer. Il y avait une vraie demande, même une pétition à ce sujet pour réclamer la reprise des vols.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a encore une préoccupation sanitaire très forte outre-mer. Ce que nous souhaitons garantir par le mécanisme dit des corridors sanitaires, c'est une espèce de respect de la chaîne de la propreté des aéroports du début jusqu'à la fin qui va, je pense, conduire les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer à s'ouvrir beaucoup plus au transport aérien. Donc j'ai très bon espoir que début juillet, ce trafic puisse reprendre, la demande est très forte.
C'est important, début juillet, départements d'outre-mer et au-delà, par exemple, l'autre côté de la Méditerranée, vous avez aussi une échéance, une date.
Ce que nous savons, c'est que l'ensemble des pays de la Méditerranée, qui sont en fait des grands pays récepteurs de tourisme, pour certains d'entre eux, je pense par exemple à la Croatie, c'est 25% de la richesse nationale qui est liée au tourisme. Donc ce que nous observons dans tous ces pays de la Méditerranée, c'est un immense désir d'attirer les touristes. Par exemple, dans les pays du Maghreb, nous savons que les offices du tourisme travaillent d'arrache-pied pour accueillir les touristes, même si les gouvernements sont encore un petit peu en arrière de la main. Mais nous voyons que le mois de juin va être le mois au cours duquel tous les gouvernements vont se poser la question de savoir si oui ou non ils rouvrent le tourisme. Et il y a une compétition aussi dans ce domaine-là. Et le tourisme, c'est la vie. C'est des recettes pour tous les gens des pays récepteurs. Donc j'ai assez bon espoir que dès lors qu'on arrive à contrôler la circulation du virus, ce qui est le cas aujourd'hui, le trafic reprenne assez vite.
Vous dites qu'il y a une compétition, Augustin de Romanet, mais quand vous entendez des ministres comme Elisabeth Borne à la transition écologique ou encore Jean-Baptiste Lemoyne au tourisme, vanter un tourisme local bleu, blanc, rouge, c'est pas fait pour aider le secteur aérien et les déplacements.
Écoutez, les deux ne sont pas incompatibles. Il y a suffisamment de place pour tout le monde et donc ce tourisme blanc, bleu, rouge...
Là, vous ne voulez froisser personne, mais force est de constater que ça n'aide pas quand on dit rester en France.
Vous demanderez à mes collaborateurs, je leur dis tous les matins que ce n'est pas parce que l'assiette du voisin se remplit que ça vide la mienne. Donc l'idée de défendre Pierre plutôt que Paul m'est étrangère.
Je ne dis pas ça, mais quand on regarde quand même un petit peu à côté, nos voisins européens, et en particulier l'Italie, a rouvert ses aéroports avant-hier et en même temps ses frontières, l'enjeu touristique, il est quand même primordial. C'est une bataille, un leadership.
Mais bien sûr que c'est une bataille. Tout à l'heure, Catherine Pégard parlait à juste raison du fait que Versailles était très dépendant des touristes chinois et américains. Et c'est une de mes préoccupations. Autant je peux dire que cet été, l'Europe va réouvrir, autant il est exact que pour beaucoup de dirigeants des pays d'Asie, l'Europe est une zone rouge. Il est exact qu'aux États-Unis, chaque gouverneur a une position différente et que le président Trump, malgré le fait qu'il ait dit il y a une semaine qu'il était prêt à accueillir les touristes européens des pays qui avaient maîtrisé la pandémie, n'est pas tout à fait sûr de lui. Donc, un gros enjeu pour le transport aérien, notamment pour les compagnies aériennes, notamment pour les assistants en escale, qui sont des acteurs essentiels de la chaîne du transport aérien et qui sont en situation financière très fragile. N'oubliez pas que nous avons perdu 98% de notre chiffre d'affaires, aussi pour les aéroports.
98%.
Nous sommes, pendant 3 ans, on a dit avec les débats sur la privatisation que nous étions une poule aux œufs d'or. Eh bien, la poule aux œufs d'or, un jour, elle n'a plus d'œufs. Donc, il est très important pour l'ensemble de la collectivité de la chaîne du transport aérien, que le trafic reparte, y compris en provenance d'Asie, à destination d'Asie, et vis-à-vis du monde américain.
Une parenthèse, la privatisation, puisque vous en parlez, Augustin de Romanet, elle est enterrée, que vous a dit l'État à ce sujet ?
Alors, je n'ai pas eu particulièrement de commentaires de l'État à ce sujet. Je n'ai pas l'impression que ça soit en haut de sa pile, mais je n'ai pas eu d'informations.
Vous parlez des difficultés des compagnies aériennes. En contrepartie des aides accordées par l'État à Air France, il est demandé, Augustin de Romanet, à la compagnie de supprimer des trajets pouvant être réalisés en train en moins de 2h30. Air France s'y engage. Est-ce que vous avez votre mot à dire ou pas sur ce sujet ?
Alors, est-ce que j'ai mon mot à dire ? Non. Est-ce que j'ai une opinion sur la question ? Oui. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment chez certains de vos confrères. Je pense que dans une économie de marché, la régulation se fait plutôt par les prix que par l'interdiction administrative. Et si on considère que des transports de courte distance sont abusivement émetteurs de CO2, eh bien on les taxe éventuellement, on fait augmenter le prix. Si on augmente le prix, ça diminue la propension à consommer. Et avec ces taxes, on peut faire de la recherche pour les biofuels et la réduction des émissions de CO2. Il y a deux choses qui sont claires. Le transport aérien ne pourra pas continuer sa croissance s'il ne réduit pas ses émissions de CO2. La deuxième chose, c'est qu'un monde sans transport aérien n'est pas un monde que nous souhaitons, y compris pour des distances qui sinon seraient réservées
Alors
aux personnes qui pourraient louer des avions d'affaires.
Très bien.
Moi, je ne souhaite pas un monde du transport aérien où seuls les riches pourront aller au Bourget pour pouvoir faire...
C'est ça l'alternative. Si on supprime par exemple Paris-Bordeaux, eh bien soit ce sera les avions privés, soit peut-être les low-cost européennes qui vont venir prendre la place d'Air France.
Écoutez, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il sera définitivement interdit d'aller à Toussus-le-Noble ou au Bourget pour prendre un petit avion pour aller à Casteljaloux ou à Annecy. Mais est-ce que c'est le monde que nous voulons ?
Par votre question, vous avez répondu.
Non. J'ai répondu que c'est un monde que je pensais mauvais.
Le monde d'avant, d'après, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, Augustin de Romanet, en tous les cas, il va falloir être inventif. Vous avez dit tout à l'heure l'amputation de votre chiffre d'affaires et on se rappelle que le groupe ADP est un groupe avec une possibilité de licenciement malheureusement aussi pour vous.
La question de la survie économique d'un groupe est posée à tout moment lorsqu'on est dans une crise telle que celle-là. J'ai de multiples parties prenantes que je dois prendre en compte. Et évidemment, le souhait de tout entrepreneur, c'est de préserver l'emploi au maximum. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de parler de mesures d'adaptation avant que nous n'ayons pris l'exacte mesure de ce qui va nous arriver.
Pour conclure, Augustin de Romanet, vous êtes à un poste important, évidemment, d'action et d'observation. Qu'est-ce qui nous attend selon vous ? Vous avez publié il y a quelques années, je m'en souviens, un livre, Non aux 30 douloureuses, appelant au retour d'un État stratège. Il est revenu, il est temps qu'il revienne ?
Cette pandémie aura été un banc d'essai de la qualité de la gestion administrativo-politique des États. Et ce qu'on observe, c'est que les États qui sont les plus slim, les plus smart,
c'est-à-dire
Singapour, oui. Taïwan, la Corée, qui ont des administrations qui fonctionnent comme des entreprises privées.
Et pas de bureaucratie, pas de technocratie trop lourde, c'est ça ?
Ces États-là ont probablement eu un délai de réaction plus rapide et dont on a vu que c'était la clé du succès dans la lutte contre une pandémie. Donc il ne s'agit évidemment pas d'accabler tel ou tel État en particulier, mais ce qu'on a vu, c'est qu'en moyenne, un certain nombre d'États asiatiques ont un temps de réaction plus rapide que les États européens. Et donc, ça nous invite, nous, mais nous avons les moyens, nous avons des jeunes générations qui sont formidables, parce que je le disais dans Non aux 30 douloureuses, je suis très optimiste pour les années qui viennent. Néanmoins, c'est vrai que nous allons avoir des moments de transformation à réaliser, c'est ça qui est passionnant.
Beaucoup de leçons donc à venir. Merci Augustin de Romanet d'avoir répondu à mes questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, 8h28.